5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast audio et vidéo de France Bleu Paris, épisode 33 aujourd'hui. Un épisode au goût amer. Oui, je sais, après le résultat d'hier soir, je vous avoue que depuis hier, 23h à peu près, je suis d'humeur plutôt maussade, énervé même. Ce matin, je n'avais pas franchement la pêche, mais en me disant que j'allais retrouver la bande de tribune, qu'on allait pouvoir ensemble se prendre la main et puis un peu purger tout ce qu'on a vu et se dire, allez, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Bah, je me suis dit, ça fait du bien. D'ailleurs, je pense qu'on va proposer de se faire rembourser par la Sécu, parce que je suis sûr que vous aussi, qui nous regardez, qui nous écoutez, vous vous dites, ah, je vais les écouter, ça va me faire du bien, et puis surtout on va se motiver et se dire que dans 5 jours désormais, il faut retourner au turbin, il faut retourner au travail, hein, une bonne journée de travail pour certains, ça leur ferait pas de mal, eh bien il serait temps d'aller chauffer un petit peu Barcelone chez eux, là-bas, mardi. Ce sera bien sûr à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. En tout cas, je vous le rappelle les amis, aux Lakers, c'est pas terminé bien évidemment, même si ce score, cette défaite de 3-2, c'est bloqué là, et j'avoue que j'ai un peu de mal à ce que ça passe. Alors installez-vous, n'oubliez pas bien évidemment de mettre des pouces et autres commentaires sur la vidéo et sur le podcast en audio. On n'hésite pas, vous nous faites des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Et désormais, il est temps de vous présenter le programme. À tout de suite.
100% PSG, la tribune.
Au sommaire de cette tribune, le PSG qui se plante dans son quart de finale aller de Ligue des Champions. Défaite 3-2 pour le Paris Saint-Germain, alors que Paris a mené 2-1. Douche froide donc sur le Parc des Princes. Mais il reste une rencontre à Barcelone dans 5 jours. On passera bien évidemment cette rencontre à la Moulinette avec le j'aime, j'aime pas. Et puis on se posera 3 questions. Savoir si Luis Enrique a totalement raté son match tactiquement et aussi peut-être techniquement. Le PSG peut-il se qualifier avec un bon Kylian Mbappé ou sans un bon Kylian Mbappé? C'est surtout ça la question. On va se la poser la question. Peut-on aussi croire encore à la qualification après avoir perdu 3-2 à domicile? De cela et du reste, on en parle dans 100% PSG, la tribune.
100% PSG, la tribune.
Qui compose l'équipe du jour? C'est un peu nos Jedi à nous, toujours prêts à combattre l'étoile noire et son côté obscur de la force. Petit, bien sûr, clin d'œil à cet exceptionnel tifo du collectif Ultra Paris et du Virage Auteuil. On en reparlera peut-être avec les débatteurs. Qui est autour de la table? Eh bien, je vous présente un revenant, Marc Méchénois, de la rédaction du PSG, du Parisien. Salut Marc.
Salut.
Bienvenue Marc, avec... Franchement, si vous nous connaissez un petit peu désormais en vidéo, vous l'avez déjà vu. Il avait ce petit catogan Dr Love un petit peu, voyez. Et désormais, il a tout coupé. Il est magnifique, c'est superbe. Ça te va très très bien.
Merci beaucoup.
Voilà mon Marc. C'était le point coiffure. Stop, on arrête là bien évidemment, puisque on n'est pas sponsorisé par une marque de coiffeur, mais ça te va très très bien. Et on salue ton coiffeur qui a fait du bon boulot. Abdellah Boulma, qui admire ta coupe de cheveux, journaliste indépendant, dont le nouveau livre On n'est pas... Tout n'est pas foutu, va sortir le 25 avril prochain chez Solar. 15 raisons d'aimer encore le football. Salut Abdella.
Salut Bruno, salut tout le monde. Je suis fasciné par la présence de Marc Méchénois. Je ne sais toujours pas si c'est lui, mais en tout cas, je tiens à lui dire qu'il est tout simplement magnifique. Il ressemble à un acteur de série B américaine.
C'est ça, non, il est pas mal. Il est très très bien.
Très très bon.
Vous avez d'ailleurs à peu près le même coiffeur, je crois. Vous avez à peu près fréquenté le même. Ça, c'était pour la petite balle perdu. Enfin, il n'a pas écrit, enfin je crois, je suis allé taper Romain Bédouc livre, j'ai pas trouvé, mais il suit et il décortique l'actualité du Paris Saint-Germain tous les matins sur France Bleu Paris. Salut Romain.
Salut à tous. Je suis très content parce que maintenant j'arrive à différencier Marc et Alexandre Affalo.
Je suis très heureux. Voilà, puisqu'on le rappelle, Alexandre a aussi un catogan.
Elle était pas préparée celle-là.
Non, ça va.
Mais le tir était aussi gratuit. Ouais. Voilà, en tout cas les amis, bienvenue dans cette tribune.
Faut bien en rire.
Ah bah oui, par rapport à ce qu'on a vu hier soir, vaut mieux en rire. Ouais. Effectivement, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, les garçons, on attaque. Et tiens, juste pour se mettre dans le bain, on va écouter ça.
Mais c'est horrible. Catastrophique. Derrière, ils n'ont pas été au niveau. Donnarumma, n'en parlons pas. Sur les 3 buts, c'est encore une fois une sale soirée pour nous, quoi.
Et Mbappé, arrête de faire la star, arrête de vouloir avoir le dernier mot.
fait des passes et Inch'Allah, match retour, on va les tabasser.
Je pense que c'est la défaite de tout un groupe. Il va falloir se remobiliser pour le match retour très très vite.
Bon, on a toutes nos chances. Je pense que vu comment ils viennent gagner ici, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire l'inverse et qu'on puisse pas gagner là-bas. Ça se tient à pas grand chose en termes de niveau et on peut gagner.
Il faut qu'ils se préparent parce que on va leur faire du sale.
On garde espoir. Ici, c'est Paris.
Voilà, ici, c'est Paris. Gardez espoir, bien évidemment. Gardez espoir, ce sera à vivre mardi prochain sur l'antenne de France Bleu Paris. Le retour, le quart de finale de Ligue des Champions. Retour du Paris Saint-Germain. Le PSG qui s'est donc planté dans les grandes largeurs en étant mené dès la 36e minute de jeu. 1-0, but de Rafinha. Égalisation derrière le Dembélé. Oui, miracle. Ousmane Dembélé a marqué un but avec le Paris Saint-Germain. Elle était belle, cette sacoche sous la barre de Marc Ter Stegen. Derrière, qu'est-ce qu'on voit ? Vitinha qui marque de but 1. Tu te dis que c'est parti. Et derrière, patatras, 2-2 et 3-2. Le Paris Saint-Germain a donc perdu son match aller, son quart de finale de Ligue des Champions. On va bien évidemment débriefer avec le j'aime, j'aime pas. Et on va attaquer avec toi, Abdella, et ton j'aime. Pour... Soyons positifs. On va faire un tour de table de j'aime. J'ai envie d'entendre un peu de positif quand même parce que, bon, c'est vrai, on a vu une bouille de football. Ok, il y a des trucs qui nous vont pas. Mais quand même, est-ce qu'on peut sortir des choses de bien de cette rencontre ?
J'ai pas aimé grand-chose. En revanche, j'ai aimé le tifo.
Ah oui.
Le tifo du Cup. Avec... Je n'étais pas au stade, mais j'ai vu, j'ai un peu regardé ce qui, enfin, sur les réseaux, ce magnifique tifo Star Wars avec cette apparition sublime de Yoda. Et j'ai aussi aimé, enfin voilà, si on peut parler football aussi, le match de Nuno Mendes, qui a été énorme encore une fois, hormis effectivement une faute sur la couverture, enfin but barcelonais, mais j'ai aimé la prestation globale de Nuno Mendes.
Alors, on va prendre les deux, je prends les deux. Déjà, rien que sur ce tifo, effectivement, exceptionnel, Romain.
Magnifique.
Ils ont été d'enfer, c'était génial.
Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y a une vraie synergie entre le club qui a mis les ambiances avec les entrées des joueurs, avec les musiques de Star Wars, etc.
La lumière
et
aussi.
La lumière qui s'est un peu tamisée, et avec les tifos. Parce que c'est pas un tifo, c'est les tifos.
Ouais,
et moi, celui avec les écritures jaunes qui font les paroles de la chanson, je trouve ça génial. Vraiment, donc vraiment, c'était très très
non,
beau.
Il faut leur rendre hommage, hein, c'est vraiment exceptionnel.
Ouais, non, c'était très bien organisé et pas que le collectif Ultra Paris, donc, puisqu'il y a le club qui a participé pour avoir cette ambiance générale qui était hyper hyper sympa. En plus, je suis fan de Star Wars, donc forcément, ça m'a encore plus touché.
Ce maître Yoda était génial, puis les deux sabres laser qui s'illuminent rouge et bleu, c'était vraiment fantastique. Bravo au collectif Ultra Paris, au club aussi, et d'avoir travaillé main dans la main sur ce tifo qui était génial. Nuno Mendes, effectivement, grosse prestation, il nous en a sauvé une déjà sur la ligne, il a dégagé comme il a pu et il a fait des belles accélérations, il a tenté des choses. C'est vrai que c'est l'un des hommes à sortir du match, Marc.
Ouais, c'est nous, je crois que dans... T'as le Parisien devant toi en plus. Alors, je vais trahir les coulisses de l'émission. Ouais, on lui a mis 8, alors c'est il y a en effet cette erreur sur le marquage de Rafinha sur le but du 2-2, mais je pense qu'il en sauve tellement en fait dans le match. Le nombre de retours qu'il fait en seconde période pour venir couper devant Lewandowski, où tu te dis ouais, il est tout seul Lewandowski, il va marquer, il va planter. Puis en fait le mec sort de nulle part et il sauve le Paris Saint-Germain d'une déroute je pense plus importante à pas mal de reprises. Puis il y a ce corner où il sort sur sa ligne, donc pour tout ça, je crois qu'il méritait quand même une très bonne note.
Il marque vraiment la différence au niveau de ses qualités. Vélocité, rapidité, technique, capable de passer face à deux joueurs, prise de risque, centre, ne se cache pas, mais c'est un gamin exceptionnel. Et ouais, il n'a pas joué 8 mois, 9 mois
9 mois.
8, 9 mois. Puisqu'il y en a certains qui nous disent, certains observateurs, on en reparlera tout à l'heure, qui estiment que voilà...
Faut avoir du rythme,
n'a pas fait
absolument.
Nécessaire, etc. Parce qu'il ne le faisait pas souvent jouer, etc. Bon, le gamin n'a pas joué 10 mois. Et il est capable de nous pondre une prestation aussi exceptionnelle sur un quart de finale de Ligue des Champions.
Sur 90 minutes.
Sur 90 minutes. C'est grand.
Effectivement, c'est grand. Juste pour terminer, ouais. Marc, et après on passe au j'aime de Romain.
Hier, dans son positionnement et dans celui de Marquinhos, en fait, comme Hakimi n'était pas là, le rôle de Nuno était de se projeter très haut et Marquinhos d'être haut, mais tout en étant... un peu sur la réserve, enfin d'avoir un positionnement un peu à la fois avec beaucoup de sécurité et quitte à reproduire ce déséquilibre d'un côté plutôt que de l'autre, je préfère quand c'est fait avec Nuno que quand c'est fait avec Hakimi, parce que sur la discipline défensive On tire toujours un peu sur les deux, mais il y en a un qui est, à mon avis, très largement au-dessus de l'autre, c'est Nuno Mendes. Et hier, il a montré que sur la discipline défensive, il était bien, bien, bien au-dessus de Achraf Hakimi.
Nuno Mendes, le j'aime d'Abdellah Boulma, le j'aime désormais de Romain Bédou. Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce qu'il y a des choses que tu as réussi à sauver tout ça? Parce que je vous explique les coulisses de France Bleu Paris. Il est arrivé avec son petit sandwich vers 14h30 et il m'a regardé les droits dans les yeux. Il m'a dit, je viens de me regarder le match une deuxième fois, je suis encore plus énervé. Et il a commencé à partir. Et il a commencé à... J'étais là, mange ton sandwich. Il avait sa petite douceur après son petit dessert. Voilà, donc normalement c'est bon, il est en phase de digestion, donc un peu plus calme. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées?
J'ai encore réussi à être bluffé par Vitinha. Voilà. On demande à Vitinha de... à chaque fois qu'il y avait... En fait, depuis le début de la saison, à chaque fois que Vitinha fait une très bonne ou une grande prestation avec le PSG, il y a toujours une astérisque. On est toujours là à dire, ah ouais, non mais attends, c'est que Lorient, c'est que la Ligue 1, c'est que de la Coupe de France, ouais, mais en Ligue des Champions. Puis en Ligue des Champions, il y a le match aller contre la Real Sociedad, où c'est son repositionnement qui est la clé du match aller et de la deuxième mi-temps du PSG. Il y a son match retour où il est encore très très bon. J'ai même pas parlé de Dortmund, là-bas, où il joue déjà en 6 à ce moment-là, et il est aussi très très bon. Et hier, c'est le meilleur joueur du PSG, et de aller assez loin. Nuno Mendes aussi, également, qui fait un grand match, mais Vitinha, il passe
à côté de sa première mi-temps un peu.
Vitinha,
je trouve pas. Justement.
En fait, il y a des séquences.
Sur le premier quart d'heure, il arrive à garder une sérénité.
Mais toi qui as revu le match, moi j'avais l'impression qu'il était comme pas, enfin qu'il ne faisait pas. Enfin, je parle de la première mm-hmm. mi-temps, qu'il était en individuel sur Gundogan.
Oui.
C'est l'impression. Enfin, je sais pas. J'étais devant ma télé, j'étais pas au stade. Qu'il était en individuel et que ça l'a forcément empêché d'aller de l'avant.
À chaque fois qu'il avait le ballon, il cherche. En fait, dès qu'il a le ballon, il cherche l'ouverture, il cherche le déséquilibre potentiel. Alors, parfois, il revient par l'arrière, mais c'est parce qu'autour de lui, ça bouge pas trop. Et hier, on reviendra sur la composition de départ de Lucien Riquet, où je pense aussi qu'il s'est trompé. Mais hier, par exemple, Asensio et Likanguin font exactement les mêmes appels quasiment tout le temps. Donc ça te fait une solution en moins. Mais non, il est serein, il est propre.
Ah oui.
Et il perd pas de ballon, il met pas en danger son équipe. Puis il est décisif.
Et puis il marque. Non, mais Marc, c'est quand même lui qui marque le deuxième.
Moi la révolte du début de deuxième mi-temps, alors ça joue à une ou deux minutes près, mais c'est pas dès le début de la mi-temps où le PSG s'est dit on va attaquer direct. Non, la révolte, c'est quand Vitinha fait sa percée et il tire au-dessus. Et c'est là où les mecs ils se rendent compte, ils se disent ah mais attendez, en fait il y a la place là. Il y a la place, ils sont peut-être en train de... En fait on joue peut-être une équipe qui est aussi fragile mentalement, qui a eu des traumatismes depuis 5 ou 6 ans, donc il y a peut-être la place de le faire. Et ça vient de Vitinha. Alors qui marque le deuxième but, c'est très bien, c'est le symbole pour moi. Mais il est tellement juste, tellement... Il est fort quoi, voilà, il est fort.
Marc,
moi il y a un truc que je regrette pour Vitinha, c'est que la construction de cet effectif, plus la philosophie de jeu de Luis Enrique, elle oblige l'entraîneur... Luis Enrique a comblé certains postes par des joueurs qui sont pas à leur poste parfait. Même si dans l'esprit de Luis Enrique, tu dois être capable de jouer à tous les postes, parce que lui, il a joué à tous les postes. Mais Vitinha, du coup, bah, comme Ugarte, c'est pas la tasse de thé de Luis Enrique, bah, il l'a replacé 6. Dans les gros matchs, il joue toujours 6. Et en fait, je trouve que ça l'empêche d'aller de l'avant de manière plus régulière, plus intense. Et quand il y va, bah, en fait, il fait la différence. À Marseille, bah, c'est lui qui sonne le truc. Pareil hier soir. Et en fait, il mériterait, je trouve, d'être mieux protégé derrière lui pour pouvoir être plus haut et se protéger. Sur Ousmane Dembélé, quand il met le poteau, c'est lui qui distribue parce qu'il est haut. Et je trouve que c'est dommage en fait, qu'il pâtisse de la construction de cet effectif. Je suis sûr que plus haut, il aura encore des meilleurs stats qu'il a déjà.
Alors, on est sur des stats, puis tu me fais une jolie passe décisive. 8 buts déjà cette saison pour Vitinha et 5 passes décisives pour lui, ce qui est déjà une très belle feuille de route pour une saison. Abdellah, pour terminer.
Juste rapidement rebondir sur ce que vient de dire Marc et laisser l'excellent exposé de Romain. En 6, il est parfait. Voilà. En 6, sachez qu'en 6, hein, vous savez mieux que moi ici, suiveur du Paris Saint-Germain, ça a toujours été un poste, un poste assez compliqué au Paris Saint-Germain. Et c'est pas son poste, mais il le fait super bien. Là, tu disais à l'instant, tu disais à l'instant qu'il est pas dans, on l'empêche, vu les profils en place, il n'a pas la possibilité, il n'a pas les joueurs autour pour aller de l'avant. Mais oui, il n'a personne. En fait, il n'y a personne qui peut occuper ce poste de 6. Et quand on le met en 8, il le fait tout aussi bien. Et je vous rappelle qu'il a quand même, comme beaucoup de joueurs au sein de cet effectif, joué à droite, au milieu.
À gauche,
il s'est tapé aussi la ligne. Là, il redescend en 6.
Mais le poste 6, en fait, il t'impose aussi une dimension défensive, une dimension de défense vers ton but, qui, en termes d'énergie, te consomme. Et je pense que je trouve qu'il le fait de mieux en mieux, parce que je le trouvais léger encore au début de saison. Et tu vois qu'il va au charbon contre Marseille, tu vois qu'il va travailler, qu'il va essayer de mettre le pied, qu'il va au contact. Mais forcément, quand tu fais ça, tu dépenses de l'énergie. Et quand tu dois aller dans l'autre sens, porter le ballon, c'est plus compliqué. Et lui, en fait, ce qui est intéressant avec Vitinha, c'est quand même, c'est une belle mécanique. Hein. Je pense que si on regarde son temps de jeu, sa capacité à enchaîner, c'est jamais blessé. Et c'est pas un hasard.
Il est moins vampirisé par Mbappé.
Il a une capacité à enchaîner, mais à enchaîner les matchs qui est intéressante. Mais bon, voilà, quand tu joues 6, tu pars de plus loin. Tu dépenses beaucoup d'énergie dans autre chose. Et donc, c'est dommage, moi, je trouve, de le voir un peu trop souvent à ce poste-là.
Il va passer la barre des 3000 minutes sur le terrain. Vitinha, effectivement, il aurait été quand même pas mal baladé à nombreux postes, mais on l'aime désormais en 6 devant sa défense. Marc, justement, ton j'aime, s'il te plaît.
J'ai bien aimé l'idée que... C'est couille, on va dire, mais... J'ai bien aimé l'idée que ça mette une petite piqûre de rappel et ça fasse un peu dégonfler le teston. Je trouvais qu'il y avait un manque d'humilité autour de la préparation de ce match, et notamment dans la conférence de presse de Luis Enrique, voire de celle de Danilo, dans lequel il dit non, il n'y a pas de pression, il y a de l'enthousiasme, de la confiance. Je ne dis pas qu'il faut dire qu'on a peur, ou même la réponse de Luis Enrique sur Xavi, je suis plus barcelonais, mais en fait,
L'ADN Barça. Ouais.
Ouais, t'as pris la leçon au moins 60-70 minutes pendant une heure, quoi. Donc, et je pense que le Paris Saint-Germain, dans son ADN, a besoin aussi d'humilité, de travail, d'humilité. Et c'est pas trop ce qui a été diffusé, je trouve, en avant-match. Et je me suis laissé prendre au piège parce que moi, j'étais persuadé qu'ils allaient leur passer une volée, en fait.
Absolument.
Surtout que je regarde régulièrement le Barça en Liga et je me dis pas waouh, quoi. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est l'état d'esprit ou si c'est un manque tactique ou si je pense que c'est aussi dû à la qualité intrinsèque des joueurs, leur niveau du moment, leur courbe d'évolution ascendante ou descendante. Mais il y a un petit peu tout ça. Mais ouais, j'espère que ça va permettre d'aborder. Le retour avec un peu plus d'humilité, je crois.
C'est ce qu'on s'est dit hier soir dans le live de France Bleu Paris, notre grande soirée. On a invité les joueurs, Eric Rabessant-Latana, notre consultant, mais aussi Rémi Reverchon, qui est un grand, grand fan du Paris Saint-Germain. Bien sûr, Monsieur Basket sur Bein, qui était avec nous et qui leur a proposé d'aller se faire un bon barbecue, d'aller se poser dans un jardin et de discuter, se dire une bonne fois pour toutes les choses avant d'aller du côté de Barcelone.
Je pense que ça se dit les choses dans ce groupe, ça parle en fait. Il n'y a pas de
soucis là-dessus. Oui, la révolte, elle n'est pas là pour l'instant.
Oui, oui, bien sûr. On verra la semaine prochaine. Ouais. La révolte, c'est la semaine prochaine.
Effectivement. On garde toute la partie Luis Enrique pour le débat, bien évidemment. Mais j'entends, effectivement, moi, je pensais qu'il avait pris la pression, en fait. Il avait réussi à absorber la pression, justement, en prenant tout sur lui.
Je trouvais pas ça déconnant. On en reparlera après, mais je trouvais pas ça déconnant d'agir comme ça. Ouais. Parce que lui, on sait qu'il est plutôt... Après, t'as raison, tu passes pour un con si tu te fais battre.
Mais ils s'en foutent,
Mais entre ça et la pression et sur les joueurs...
Ouais, mais il y a un petit problème entre les mots et les actes, quoi. Juste
On en reparlera tout à l'heure.
On en reparle tout à l'heure, c'est l'un des débats. Effectivement, merci de le rappeler, Abdel.
Non, parce que j'avais encore un argument et je voulais absolument pas empiéter sur tes plates-bandes, cher coach.
Justement, tiens, donne-moi un j'aime pas dans ta besace. Qu'est-ce que tu as? J'en veux un, s'il te plaît, un j'aime pas.
Attends, veux qu'un, puisque j'en ai une dizaine.
Non, vas-y.
Une vingtaine, ok, allez, Asensio.
Très bien. Et pourquoi?
Alors, pourquoi Asensio? Parce que j'ai été...
2,5 dans le Parisien.
Ouais, 2,5 dans le Parisien, relativement surpris par sa présence dans le 11. Plutôt bonne idée, voilà. Enfin, finalement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, écoute, il cherche plutôt un profil technique, lève la tête, il l'a foutu entre les deux lignes, en 9,5, en mode un petit peu rampe de lancement, d'une certaine manière, mais en regardant le match, totalement invisible. Illisible surtout, illisible parce que je n'ai absolument pas compris le. Je termine. Je l'ai absolument pas. Il est systématiquement en désaccord avec moi, cet homme-là.
J'aurais dû vous mettre en face à
moi. Il a une coupe qui ne va pas du tout. non. Et je termine. En fait, je l'ai. Il ne participait pas suffisamment aux efforts défensifs, aux replis défensifs avec comment il s'appelle, Kanginli et Vitinha. J'ai trouvé ce milieu totalement déconnecté, mal foutu, en partie à cause de lui. Et encore une fois, en regardant son match, je n'ai toujours pas compris quel était son rôle précisément hier.
Eh bien, il y en a un à tes côtés qui pense avoir compris.
Bah écoute, j'espère.
Marc.
En fait, j'aimerais bien que Luis Enrique nous explique, mais on n'est pas du Serail, donc on pourra jamais savoir. Moi, je pense qu'en fait, ils avaient analysé à la vidéo que les latéraux montaient très vite et que en fait, il fallait aller entre le latéral et le défenseur. Et donc, les deux, Kanginli et Asensio, ça allait servir de rampe de lancement pour Ousmane ou pour Kylian Mbappé ou pour un milieu qui monte. Sauf que, ni Cancelo ni Koundé sont montés avec beaucoup.
Xavi a dit ils ont compris ce que je leur ai demandé.
Ouais, non,
mes défenseurs ont compris ce que j'attendais d'eux.
Ils sont pas trop montés, ils ont gardé un certain équilibre. Regardez bien les courses défensives de Cancelo, c'est toujours vers l'intérieur, en reculant, mais vers l'intérieur, ce qui fait que, en fait, il coupe toutes les trajectoires de balles. Cancelo, il a été extraordinaire hier.
Défensivement, il était très, très bon.
Pas au duel, pas au sens au duel, dans l'anticipation des passes, dans la manière dont il coupe les trajectoires. Et puis Koundé, pareil, et dans le duel, Koundé, je pense que hier, il y avait Didier Deschamps, il était en tribune, je pense qu'il a validé clairement sa place à l'Euro.
Ah oui, ouais. C'est certain.
Enfin, je sais pas s'il y avait un doute le concernant, mais...
Après, sur Asensio,
il a été un petit peu sacrifié, il tente un coup...
Non mais c'est normal qu'il soit sacrifié, bon, on reviendra dessus aussi sur les choix de Luis Enrique.
Après, il y a une connaissance.
C'est normal qu'il soit sacrifié et il fait pas une bonne première mi-temps, juste défensivement. Je trouve qu'il avait un rôle un peu ingrat de devoir défendre, en fait, puisqu'il était positionné soit en faux neuf, soit plutôt partir de la droite.
Ouais, c'est ça.
Mais défensivement, il devait défendre à gauche. Parce qu'à gauche, il y a un truc qui ne défend pas. Mais donc il se déportait constamment, ce qui fait que le nombre de courses à vide qu'il a dû faire, soit pour se replacer à la perte de la balle, puis se remettre à son poste offensif potentiellement, ça a fait que lui... Je pense qu'il s'est perdu un peu dans ce truc-là. Je pense que ceux qui sont à côté de lui, et notamment Lee Kang-in, les deux ensemble, ça...
Ils pressaient de manière totalement non coordonnée.
Donc en fait, effectivement, ils se sont trouvés perdus et c'est normal qu'il soit sorti. Il n'a pas été bon. Mais défensivement, je pense que c'est l'animation globale qui a dû s'adapter avec Asensio qui a rendu ce travail un peu plus difficile.
En tout cas, je vous rappelle que le prochain match pour le Paris Saint-Germain, ce sera bien évidemment là-bas du côté de Barcelone, le 16 avril prochain, mardi à 21h, à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. Marc Méchénois, ton j'aime pas ?
Mon j'aime pas, il est collectif. C'est dans un match, j'ai été surpris que dans un match de ce niveau-là, il y ait autant d'erreurs individuelles. Mais... pour tout le monde, quoi. Mais vraiment de très grosses erreurs individuelles. Même Nuno Mendes, à qui on a mis une très bonne note, fait une grosse erreur quand même sur le but de Rafinha. Et surtout, pour ceux qui regardent le Barça, ils regarderont le dernier but du Barça en championnat, c'est copier-coller. Donc, on ne peut pas dire que cette équipe, elle n'était pas avertie sur la manière dont jouait le Barça, sur le fait que Lewandowski, ça décroche. Pour libérer des espaces. Enfin, ça fait à peu près la même chose que ce que souhaitait faire Luis Enrique en début de saison. Il y a beaucoup de similitudes entre le Barça et le PSG. Énormément d'erreurs individuelles. Beraldo, Donnarumma, malheureusement. Ça m'interroge à la fois sur l'expérience globale de cet effectif et aussi sur le niveau individuel de certains joueurs.
Mais effectivement, c'est vrai que quand on regarde les deux effectifs, quand on voit la tête du milieu de terrain du Paris Saint-Germain avec Kanginli, Fabian Ruiz et Vitinha, et quand on regarde en face Frankie de Jong,
on va y venir, moi je vais venir après là-dessus.
Sergio Roberto,
c'est ça Abdella.
T'as du haut niveau technique en face. On s'est fait broyer. Mais j'ai l'impression.
Et encore, il y en a qui ne sont pas super bons. Frankie ne fait pas un grand match.
Exactement. Et en plus.
Ouais. Juste
un truc là, à l'instant tu parlais de niveau global et effectivement de toutes les fautes commises individuelles commises par les joueurs du Paris Saint-Germain, et de ce point de vue là tu as entièrement raison, mais en face il y a des joueurs de qualité. On avait prévenu, ici même, cher Bruno, on avait prévenu qu'il fallait rester prudent parce qu'en face, ce ne sont pas des peintres. Et les peintres dont on parle, c'est quand même Frankie de Jong, c'est quand même Roberto, c'est quand même Gundogan, etc. Ce n'est pas n'importe qui.
Et les remplaçants, c'est Pedri qui
Et les remplaçants, c'est Pedri qui rentre, qui t'en plante une, et Christiansen qui t'en plante une. Et ils ont joué de manière minimaliste hier. Enfin, faut quand même le dire. Hier, d'un point de vue stratégique, Xavi a mis en place un système, une animation minimaliste pendant 50 à 60 minutes.
Si tu regardes le Barça, moi, c'est le Barça que je vois quand je regarde le Barça cette saison. C'est un jeu très direct. Ok, ça a la possession, mais quand t'es dans les 25 derniers mètres ou quand t'es dans ta la balle, tu fais pas tiki-taka, quoi. Tu vas au but, tu vas à l'essentiel. Trois passes, t'es devant le but, on cherche le jeu direct. La passe de Pedri pour Rafinha, je vous assure, regardez le but de Rafinha contre Las Palmas, c'est le même.
Ouais, c'est toujours. Oui, c'est vrai.
Et ce Paris Saint-Germain, effectivement, a été un petit peu lâché. Enfin, on a Beraldo, c'est terrible pour lui, mais c'était son troisième match de Ligue des Champions. Donc c'est ce qu'on a dit à l'antenne. Il a que 22 ans. Bah, il a pris au prix fort. Il a pris Lewandowski. C'est sûr que c'était pas les attaquants la Real Sociedad.
Il y a un moment donné, tu mets Hernandez à droite et puis tu fais repasser Marquis et tu dis Marquis, tu vas prendre Lewandowski.
Mais Hernandez, il a pas le droit.
De quoi ?
De prendre le Lewandowski.
Après oui, ou t'inverses le truc.
Parce que mine de rien,
c'est le duo.
Et puis en plus, passe un peu à côté des critiques.
T'as raison. Je pense quand même que Hernandez, il a une connaissance de Lewandowski qui fait que.
Bah quand même, les mecs, ils ont joué 5 ans ensemble. Ouais. Et il a pas le droit de le.
Et surtout que Lewandowski, surtout sur match, je vous invite à regarder les highlights de Lewandowski hier. C'est du pur génie. C'est-à-dire qu'il s'est baladé de bout en bout. Quoi, que ce soit en pivot, que ce soit en remise, hein. Au niveau jeu aérien. Bon, c'est l'une des difficultés du Paris Saint-Germain, évidemment, mais Beraldo n'a pas vu le jour. Et même, c'est vrai qu'il se cache un petit peu. On n'en parle pas beaucoup, Hernandez aussi.
Bah oui, mais non, mais Lucas Hernandez, son match, il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et ce n'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il est moins bon.
Je l'ai dit ici, et on m'a dit, tu trouves. Il y a quelques mois, j'ai dit, moi, je trouve que bon, c'est moyen.
Je crois que c'était moi.
Vous étiez déjà ensemble.
Moi, j'ai dit c'était moyen. Enfin, voilà. C'était pas incroyable.
T'as vu comme je suis.
Ah, mais non, mais Lucas Hernandez, après, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une bonne pige à gauche et qu'il nous a bien servi pendant les 6 premiers mois. Et que, voilà, en tant que central, il y a des choses à revoir. Et en plus, central droit, avec Beraldo qui coulait à côté, c'est sûr que c'est pas lui qui a redressé tout cela. Le dernier j'aime et je viens, le j'aime pas, je viens vers toi, puisqu'on. Bon, ouais, on l'a un peu préparé, on a attendu un petit peu, mais là, maintenant, il faut y aller. Alors en parler, et c'est pas Kylian Mbappé, c'est qui, Romain ?
Mais moi, j'ai beaucoup défendu Gigi Donnarumma, mais c'est pas possible, en fait. c'est pas possible, en quart de finale de Ligue des Champions, de faire ces erreurs-là. Il y a la première sortie, début de match, je sais pas si vous vous rappelez, où la balle, elle lui passe un peu entre les jambes, et puis il y a un retour de Lucas. Bon,
ouais, il sauve quand même la maison, là.
Il peut se faire prendre facilement, quoi. Donc bon, ça dépend. Il fait la même action contre le Havre, il prend rouge. Donc bon, c'était. Voilà, là, à la limite. Y a des relances qui sont ratées. Le deuxième but, t'es dans une bonne période. Tu viens de mettre deux buts. Le deuxième but du Barça, je parle. Hein. T'es dans une bonne période, tu viens d'en mettre deux de suite. Et c'est sur sa mauvaise relance qu'après, il y a le décalage avec Pedri et le but pour Rafinha. Et puis les corners, mais non, c'est pas possible. T'es dans les 6 mètres, tu fais 1m96, c'est pas possible de se faire prendre 3. Parce que l'action, elle est comme ça 3 fois dans le match.
Enchaînement d'erreurs individuelles.
Mais non, mais même l'enchaînement des erreurs, t'as raison. Mais la surface de réparation et les 6 mètres sur un coup de pied arrêté, c'est le gardien. Il n'y a pas d'autre truc. Il fait 1m96, il est grand. Il s'est fait prendre une fois en première période avec le sauvetage de Nuno Mendes comme ça. Il y en a un dans la foulée où c'est aussi comme ça. Et la balle, elle passe, il n'y a personne qui la touche. Et il y a le but de Christensen. Non, il n'a pas le droit. T'as pas le droit
Je ne suis pas un spécialiste du poste de gardien, mais qui est de culture italienne, etc. Les gardiens, au niveau italien.
Ouais, en sortie, c'est pas fou.
En sortie, c'est absolument pas fou. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'il met le PSG dans l'embarras. Il y a eu aussi des précédents. Oui, ça fait écho peut-être à un autre débat, parce que depuis quelques temps, effectivement, il a fait de très bons matchs. Mais certains ont commencé même à le considérer comme l'un des top 3.
Dans cette émission, moi en tête.
Le poste de gardien est un poste ingrat, très spécial. Tu peux réaliser une superbe saison, mais si tu arrives dans le dernier carré et que tu nous fais une bourde, monumental en quart de finale, est-ce qu'on peut toujours considérer que tu es un grand gardien? Un grand gardien, c'est celui qui t'accompagne à la victoire jusqu'à la fin, sans commettre aucune faute.
Je vais te poser une autre question. Qui est un grand gardien
aujourd'hui?
Ouais. Il y a Courtois. Je vais te le donner. Il y a Courtois, qui est un grand gardien, mais qui est blessé actuellement. Il y a Alisson, qui est un grand gardien, mais qui est blessé actuellement. Et le reste, tu vas regarder dans tous les autres clubs, même les anciens, style Neuer, etc. Tous les clubs critiquent leur gardien. Arsenal, ils critiquent David Raya. Au Barça, tu leur demandes comment ils critiquent Ter Stegen. Lounine, au Real, qui fait l'intermittent de Courtois. Je sais pas si Donnarumma, il prend le premier but du Real face à Manchester City, le coup franc de Bernardo à la deuxième minute. Je sais pas ce qu'on dit. Ederson, il a été critiqué pendant je sais pas combien d'années.
Il est sur le banc.
Il est blessé actuellement. Il y a Kobel de Dortmund, on peut le sortir si vous voulez. Bon, ok. Onana, Manchester United.
Ouais, mais bon,
Onana. Qui est le gardien?
Ouais.
Non, mais Onana, l'année dernière, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe avec l'Inter.
D'erreurs en début de saison.
Mais voilà. Mais donc, en fait, tous les gardiens font des erreurs. Donc, moi, je fustige Donnarumma et je lui dis qu'il a pas le droit. Et il a pas le droit. Et je dis ça parce qu'il doit corriger quelque chose. Je dis pas ça parce qu'il faut changer Donnarumma. Parce que si tu changes Donnarumma, tu vas avoir le même problème avec un autre gardien. Tous les gardiens font des erreurs.
Le problème de Donnarumma, c'est juste que il fait une super saison. Je pense que dans le bilan comptable du Paris Saint-Germain, il a une vraie place. Mais en fait, on est en quart de finale de Ligue des Champions.
Et
c'est pas la première fois que dans un match en haute altitude.
Alors, on le rappelle, il y a 2 ans, le Real Madrid, l'erreur avec Benzema, tout ça, la faute. Voilà. Bon, après,
ça, c'est
mais après,
débat.
Après, je vais le défendre, Donnarumma. Ok, il y a une erreur. C'est pas non plus le seul responsable.
Oui, mais tu dois rassurer. Voilà. C'est l'impression que ça me donne. Tu dois quand même rassurer ton équipe. Et dans les 2-3 premiers ballons que tu prends ou tu tentes de prendre, tu te fous.
Il y a toi en individuel, être rassuré et rassurant. Mais je crois que globalement, à un moment donné, lui et sa défense. Il voit l'état de sa défense, elle ne le rassure pas, et puis lui, il ne rassure pas sa défense.
Mais les deux sont corrélés, Marc. Enfin, à la lecture des matchs, tu as une défense qui n'est pas forcément rassurée par les dégagements ou les prises de balles de Donnarumma. Enfin, on le voit. Enfin, c'est une évidence.
Mais pourtant, je ne dis pas qu'il faut changer.
Est-ce que tu peux améliorer les skills d'un gardien de cette envergure?
Moi, je pense que dans les 6 mètres.
Il a quel âge? Il a 23 ans de là,
moi.
25 ans. Tu le vois, qu'il a amélioré des choses. Quoi.
Oui, son jeu au pied, là, j'ai fustigé le fait qu'il avait raté une relance, mais c'est quand même mieux par rapport à son arrivée. Je ne vais pas dire par rapport au début de saison, mais par rapport à son arrivée. Donc tu peux encore progresser.
Tu vas aller loin en Ligue des Champions, il te faut un gardien hors norme.
Mais il n'y en a plus des gardiens hors norme.
Oui, je sais, mais
c'est ça, en fait, le problème, c'est que tu regardes toutes les années, tu prends les gardiens. Ederson, ce n'est pas un gardien hors norme. Manchester City gagne la Ligue des Champions l'année dernière. Voilà. Il y a Courtois, c'est un gardien en arme. Voilà. Mais sinon.
Par contre, moi, je vais être très clair dans la surface de réparation. Enfin, voilà, quand t'es à 1 mètre, t'as Christensen, tu décolles, c'est pas possible. T'as un tractopelle.
Surtout
au fait,
quand c'est arrivé deux fois. Ça t'est déjà arrivé deux fois dans le match. C'est ça qui est rageant, en fait.
Gijo, si tu nous écoutes, il faut faire le gros match la semaine prochaine du côté de Montjuïc.
Persuadé qu'il peut le faire.
Ah oui, moi aussi,
je pense qu'il peut
mais le
faire
problème,
aussi,
c'est ce qui est assez terrible, je ne sais pas pour vous dans ce match-là, et ça va nous permettre de glisser vers notre premier débat. Finalement, c'est qu'on avait une ou deux certitudes, et on avait quand même la certitude du gardien. Ouais. Tu te dis, ça fait 27 matchs qu'on est tranquille, parce que ça fait 27 matchs où il est plutôt pas mal, à part sa dinguerie face au Havre. Derrière, il est plutôt pas mal. Et là, tu te dis, en fait, t'as été déstabilisé finalement par ceux à qui tu t'attendais pas. Beraldo, il nous fait des bons matchs ces derniers temps. Il explose complet sur sa première grosse participation. Oui, Marc.
Sans transition, je fais un opening.
Allez, go.
Il y avait un j'aime que j'aurais dit en 10 secondes. Marquinhos, c'était sa 436e hier. Je trouvais qu'il a fait un bon match à un poste qui était que pas forcément le sien. Et
à droite, il était bon.
Et en fait, voilà, certitude, hier, lui, il a été bon.
Ouais,
voilà.
436e match, effectivement, il est rentré dans l'histoire, Marquinhos. Il est désormais le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il vient de décrocher, monsieur Jean-Marc Pilorgé, qui reste à 435. Et bien évidemment, Marquinhos continue sa route vers les records. On lui souhaite de rester longtemps, mais effectivement, hier, c'était l'un des seuls défenseurs à peu près tenir la baraque, le seul à tenir son rang en défense du côté du Paris Saint-Germain. Avec Nuno Mendes, bien évidemment. Les amis, est-ce que Luis Enrique a raté son coup tactique. La question, c'est est-ce qu'il a tout simplement raté son match ? Il a tenté Asensio, il a tenté Marquinhos, il a tenté une animation un petit peu différente pour surprendre cette équipe du FC Barcelone. Je me retourne vers toi, Romain. Est-ce que Luis Enrique, est-ce que cette défaite face à Barcelone, elle est aussi pour Luis Enrique ou en grande partie pour Luis Enrique ?
Oui, il a raté sa composition de départ. Donc quand tu rates ta composition de départ et que tu es mené 1-0 à la mi-temps, même si je trouve qu'il a bien, voire très bien rectifié le tir à la mi-temps avec ce changement, tu pars avec un but de différence donc, et qui a une incidence sur le score final. Donc forcément il a sa responsabilité. Moi, le problème que j'avais avec la composition de départ, c'est pas de mettre Asensio ou de mettre Lee ou de pas faire jouer Warren, etc. C'est l'association des deux profils, Asensio et Lee ensemble. Pour moi, si tu mettais pas Warren, tu mettais Lee à sa place, alors c'était Gonzalo Ramos qui devait aller devant. Si tu mets Warren, tu peux mettre Asensio. Tu peux pas mettre les deux. En fait, tu peux pas mettre Lee et Asensio ensemble.
Oui, parce que souvent, ils ont fait les mêmes appels.
Les deux vont se marcher dessus, automatiquement. Donc c'est là, pour moi, où il s'est trompé. Je comprends l'idée de vouloir amener le plus de joueurs techniques possible pour mettre Mbappé et Dembélé, qui étaient beaucoup plus offensifs dans les meilleures conditions, sachant que Dembélé, dans le rôle de quatrième milieu de terrain, avait été intéressant, mais pas non plus transcendant. Donc je comprends l'idée, mais je trouve qu'en termes de profil, Lee et Asensio, le fait qu'ils soient gauchers, qu'ils aient un peu le même style quand ils rentrent dans l'axe, qu'ils aient pas de mauvais pieds pour pouvoir contrebalancer, je trouve que c'est trop similaire et c'est là-dessus où il s'est trompé. Après, il y a eu d'autres choses dans le match. La composition de deuxième mi-temps avec l'entrée de Barcola est hyper intéressante. Il y a des choix de Luis Enrique qui ont été bons, d'avoir replacé Marquinhos dans l'axe avec Lucas Hernandez à droite. Là-dessus, c'est un choix de Luis Enrique qui n'était pas forcément attendu, qui a été bon. Mais c'est trop préjudiciable, la compo de départ, elle est trop préjudiciable.
Il y avait une espèce de grande hype, de grande confiance autour de Luis Enrique. Sur les réseaux sociaux, je voyais « je fais confiance à Luis Enrique ». En gros, on avait une espèce de secte qui était en train d'avancer vers ce quart de finale, Abdellah. Et au final, c'est vrai qu'on a été surpris. Alors, il nous a surpris. Donc là, on s'est dit « bon, c'est pas grave, c'est comme il nous fait d'habitude, des changements ». Mais ces changements, ils ont pas fonctionné sur cette première mi-temps, surtout.
Absolument. Des changements qui ont fonctionné finalement les 20 premières minutes parce que Barcelone est étouffé. Les 20 premières minutes, on était tous enjoués, on se disait bon ouais, enfin sur les je parle des 15-20 premières minutes, en revanche effectivement après les réajustements très juste c'est le cas de le dire, trop tardif. Je veux dire, qui sont arrivés trop tardivement.
Toi, tu penses qu'il fallait les faire tout de suite.
Je vous renvoie à la déclaration de Marquinhos. Je crois que c'était après match ou à la mi-temps ou après le match, qui te fait un diagnostic exceptionnel et qui t'explique qu'effectivement on aurait pu colmater les brèches. Le poison, c'était Lewandowski. Il aurait fallu, on était aspiré, etc. Il te fait un diagnostic parfait. La question que je me pose dès lors, c'est pourquoi tu n'as pas fait le nécessaire sur le terrain. Et la deuxième question que je me pose, c'est quelles sont les consignes distillées par Luis Enrique avant le match ? Est-ce que les joueurs ont la possibilité de prendre leur destin entre les mains et de faire le nécessaire pour corriger le tir sur le terrain ? Ça, c'était la première chose. Et j'ai une seconde chose, Bruno. Tout à l'heure, tu parlais hors coulisses, effectivement. Je suis aussi tombé dans le piège, comme tout le monde. Je me suis dit, oh là, il met bien, c'est la première fois depuis 10-12 ans qu'on est rassuré, qu'on est serein à l'approche d'un grand événement comme ça. Et je me dis, allez, pourquoi pas ? On n'était absolument pas dans la panique. Mais finalement, quand tu creuses un peu l'ice loop, quand tu creuses un peu, tu te dis, il balance un petit peu entre méthode Coué et positivisme excessif. Il est un peu entre les deux. Et tu te dis, là, on se plante, mec. Arrête avec ta positive attitude, pour reprendre les paroles de Laurie de Raffarin. Positive attitude. Et dis-nous plus clairement les choses. Et voilà, à force de vouloir protéger ton groupe, tu te plantes. Et hier, il s'est effectivement planté.
Il n'était pas staffé suffisamment pour aller défier cette équipe de Barcelone, Marc ?
Alors, moi, il y a deux choses.
On parle devant le micro, s'il te plaît, mon loulou.
Deux choses. Non, parce que... La première, c'est que sur la compo, peut-être. Tu peux tenter quelque chose, avoir un plan de jeu. Ça peut ne pas marcher. Et peut-être même, ils y ont collé un petit peu trop. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ce qu'on a vu du Barça hier, c'était pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas surprenant. C'est le Barça. But de Rafinha, c'était le même il y a 10 jours. Mais en sachant ça, Moi, je sais ça. Je regarde pas le Barça tous les 4 matins. Tous les 4 matins, je le sais. Comment eux qui ont dû repasser tout au peigne fin, les points forts, les points faibles, comment ils vont nous prendre, comment ils vont nous attaquer. Attention, il faudra faire attention là parce qu'ils font systématiquement ça. Comment eux, ils sont capables, enfin, comment est-il possible que ce Paris Saint-Germain fasse exactement les erreurs ou ne ferme pas exactement les espaces sur lesquels le Barça va t'attaquer ou ne les contre pas dans le registre sur lesquels ils vont te pratiquer?
Parce qu'il pensait peut-être que Xavi allait lui proposer autre chose.
Le catalan, alors, il sait, l'entraîneur catalan ou de filiation catalane, qui sait, sait que le Barça ne te proposera dans les grandes lignes ce que le Barça va lui proposer dans les grandes lignes. Alors, il y aura des ajustements à la marge.
C'était une version. C'était une très bonne version du Barça de cette année. Hein,
Magir.
Hein. C'est-à-dire que moi, je les regarde souvent aussi, le Barça.
C'est pas un match
lambda du Barça qu'ils ont fait hier.
C'est pas un match. Il y a Gundogan en face. Il y a De Jong. Il y a Lewandowski. Ouais.
Mais alors, tu vois, dans l'idée.
Il y a Arojo. Il y a Ter Stegen. Il y a déjà une vraie colonne vertébrale dans cette équipe. Et ça, c'est mon deuxième point. Je vais y venir après. Mais déjà, il y a des joueurs d'expérience. Donc, quand il faut élever le curseur. Ils sont sur une bonne dynamique, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas perdu. Et oui, ils sortaient d'un match contre Villarreal, ils en ont pris 5 à la maison. Et puis depuis, bon bah, c'est carré. Ça fonctionne bien, tu es à peu près solide défensivement.
Tu veux rebondir, Romain, et on passe après au deuxième point de Marc.
Dans cette idée-là, justement, quand tu vois le Barça, je comprends l'idée de se dire, je vais mettre un maximum de joueurs de ballon, comme ça je vais avoir le ballon. Et pour défendre, Gundogan, c'est pas sa force. Frenkie, c'est pas sa force.
Ah, mais c'est des joueurs qui savent.
Et donc tu te dis là je vais les mettre un peu plus en difficulté quand ils vont être comme ça. Le truc c'est qu'ils se sont fait complètement avoir et c'est là où tout s'est joué pour moi en première période, c'est sur le jeu long. On revient sur Beraldo, mais le fait que Beraldo remonte à chaque fois et se fasse prendre à chaque fois par Lewandowski et laisse des trous béants pour que Yamal et Rafinha rentrent dedans, c'est là où ça joue. C'est que le jeu long de Ter Stegen a été très bon, le jeu long de Kubarsi a été très très bon également, et donc c'est comme ça que tu te fais avoir. Ouais. Mais donc ça c'est dans les consignes, on en revient à ce que tu disais Abdellah, mais dans les consignes qu'il a données à certains joueurs, je pense qu'il s'est peut-être trompé effectivement, même dans les corrections qu'il aurait dû faire. Il y a pas un moment où il dit à Beraldo non mais arrête là, ne monte plus, reste sur ta position parce que c'est criminel. Et donc là-dessus il aurait peut-être dû s'adapter un peu plus.
Mais toi on pense tactique forcément. Oui, bon bah il a perdu la bataille tactique, machin, c'est à faute de Lucien Riquet. Je pense qu'il a une part de responsabilité, il l'a reconnu lui-même hier. Mais il y a aussi un truc.
Il a dit qu'il a eu tort.
Mais il y a aussi un truc qui fait la différence dans ce match, c'est la qualité technique des joueurs, la justesse technique des joueurs dans le match. Donc à l'instant T ou la justesse technique globale. Je pense que hier, il y a des joueurs qui techniquement, du côté du Barça, ont été beaucoup plus justes que ceux du côté parisien. Et quand t'as un Frankie de Jong qui vient, qui te met le pied sur le ballon, qui met le Barça sur pause, ça fait la différence. Gundogan qui est capable d'être au milieu, de coller Beraldo. Et qui sont juste devant, il y a pas.
Mais ça quand fait tu dis quoi, t'es en train de me dire qu'on a joué face à une équipe plus adulte.
Je pense que
ils s'y attendaient peut-être.
Non, je pense que d'abord on a joué face à une équipe plus expérimentée, avec un effectif qui est mieux constitué, mieux construit.
Pourtant, ils ont des difficultés.
Ouais, mais il y a une colonne vertébrale dans cette équipe. Ter Stegen, Arojo, De Jong. Même quand De Jong n'est pas là, Gundogan, Lewandowski, ça te fait une colonne vertébrale. À Paris, il y a pas. Et l'autre chose que je me suis dit, et ce midi, j'ai mangé avec un ami, et il m'a dit, tu sais, Marc, je me suis dit quoi hier soir? J'ai repensé au Twitch de Luis Enrique, et j'ai pensé exactement la même chose hier après le match.
Il en a dit beaucoup des choses dans le
sur,
Twitch.
Sur Twitch, il dit au Barça, il y a 6 ou 7 joueurs
qui peuvent jouer partout.
Qui peuvent jouer au Paris Saint-Germain, et après, dans tous les trucs, il dit à Arsenal, à Manchester City. Mais la réalité hier, c'est que moi, je me suis refait le 11 mixé des deux équipes. Bah, il y a plus de Barcelonais que de Parisiens. Et au milieu de terrain du PSG, il n'y a pas un joueur qui a sa place dans le milieu. Entre Pedri, Gundogan et De Jong, il n'y a pas un joueur qui est titulaire. Il n'y a pas un joueur. Pour moi, Warren qu'il est très bon en devenir, aujourd'hui, au Barça, il devrait se battre pour sa place. Vitinha, pareil. Et t'as vu la diff hier.
Intrinsèquement,
pas tout à fait suffisamment pour aller défier ce genre de joueurs qui ont je sais pas, Gundogan, c'est 98 ou 95 matchs. Idem pour Lewandowski. Nous, on l'a pas, ça. À part Mbappé, mais il boudait devant.
Sachant que ce sont les deux équipes.
On y arrive.
Sachant, il prépare tes munitions.
C'est très difficile de parler d'un joueur qui n'a pas joué.
Sachant. Je crois que ça va être sympa tout à l'heure. Sachant que ce sont les deux équipes les plus jeunes du plateau, et sachant de surcroît que l'équipe barcelonaise est l'équipe la plus jeune du plateau, arrive en seconde position le Paris Saint-Germain. Effectivement, on a des cadres qui, intrinsèquement parlant, je rejoins ce que tu disais à l'instant, sont beaucoup plus forts que nos joueurs du Paris Saint-Germain. C'est une réalité, on ne va pas s'en cacher. Enfin, c'est pas. Enfin, on peut le dire. Et juste ajouter, terminer avec l'approche du match de Luis Enrique. Qui effectivement est venu, on l'a traité, enfin on a dit qu'il était très hautain, limite, on était à la limite du mépris, etc. Alors que ça contrastait totalement avec la position de Xavi qui est venu en toute modestie, même son plan de jeu était modeste finalement. Il y avait tout, enfin moi j'ai vu quelque chose de modeste, et même sa conférence d'après match où il a continué à dire que le Paris Saint-Germain était un corps favori, etc., etc. C'est ce que moi j'ai ressenti à la lecture de ce match entre les deux coachs.
Marc, pour terminer, ouais. Et ensuite on fait la première pause.
En fait, moi je voulais juste revenir sur construction d'effectifs ou matériel à disposition pour lui. Il a des bons joueurs, c'est vrai. Mais en fait, je pense que pour analyser le niveau d'un joueur, il faut le mettre sur trois plans. Le niveau intrinsèque du joueur, la forme du moment, et savoir s'il est dans une phase ascendante ou descendante. Et je pense qu'il y a des joueurs au PSG qui sont techniquement inférieurs à ceux du Barça sur certains postes, et dans des phases descendantes, par rapport à d'autres qui sont dans des phases ascendantes. Je vois qui, on va me dire, je tire sur l'ambulance, mais je sais pas, Lucas Hernandez, oui. Si tu me mets face à Rojo, je pense que les courbes, elles se croisent, quoi.
Bien sûr.
Je suis d'accord. Moi.
Voilà. demain, vous me dites, on recrute Cancelo et on le met à droite à la place d'Hakimi. Après, je le dis tous les jours. Ouais.
Après, il y a plein de trucs dans le Barça
qui est capable de faire les deux.
On en parlera quand on parlera du match retour et on fera une genre de preview, mais. Il y a plein de trucs dans le Barça où ça a été perfectible pendant toute la saison. Tu vois, là, on vante Frenkie de Jong en numéro 6, mais Frenkie de Jong en numéro 6, c'est pas le plan en ce moment. En ce moment, c'est Christensen.
Je rappelle juste un truc, c'est que Frenkie de Jong, il se déplaçait avant-hier matin. Il était pas sûr de jouer. Le staff médical a dit, on va attendre ce soir l'entraînement pour donner le feu vert. On n'est même pas sûr de le faire jouer. Ah, le mec, en fait, il fait ce qu'il veut.
Et Pedri, il est de retour. Les 30 minutes qu'il nous pose sont excellentes en fin de match.
Merci.
On va le prendre titulaire au prochain match.
Juste
dès là pour terminer.
Ouais, juste un petit constat. On tire à vue un petit peu. Voilà, et c'est normal.
C'est le constat.
C'est le constat sur Luis Enrique. Mais j'ai l'impression, premier du championnat avec 10 points d'avance, quart de finaliste Ligue des Champions, finale de Coupe de France avec des joueurs qui ne sont intrinsèquement en dessous de. Voilà, bon, on parle de milieu inférieur à de nombreuses équipes au niveau européen, mais j'ai l'impression en fait que Luis Enrique arrive à tirer presque le meilleur, et même on est arrivé limite à un plafond des joueurs qu'il a à disposition. Et ça renvoie presque à un autre débat aussi, et peut-être qu'on en reparlera, parce qu'on a Colo 90, on a Ramos, et ça renvoie à un autre débat dont on a déjà parlé. Ugarte, 60, les trois plus gros transferts de l'été dernier sont quand même sur le banc, et là ça pose effectivement la question de savoir comment s'est passé le mercato de l'été dernier entre le directeur sportif Nasser El Khelaïfi et Luis Enrique.
Ça, si vous me le proposez après en prochain, si on se fait éliminer, c'est ça, ça sera le...
Non mais forcément tu devras analyser, ce qui m'interpelle, c'est que tu sais au tout début juillet dernier que Luis Enrique il arrive, la conférence de presse de Luis Enrique c'est le 4 juillet ou le 5 juillet. L'arrivée de Ugarte, tu l'as fait en juin.
Oui, mais et pas que. Il y a plein de joueurs qui sont ficelés
Ficelés en juin.
Mais Skriniar, en fait, c'était ficelé.
Le coach, il a pas. Il y a un moment donné, tu peux pas te dire. Bon, le coach, peut-être que ça va pas lui plaire, ou peut-être que par rapport au football que prône le coach,
on va peut-être mettre en pause.
Pause parce que là, je suis pas sûr sur le profil. Je suis pas sûr.
Tu veux dire qu'il voulait absolument faire le transfert?
Non, ce que je veux dire.
Romain. Bah oui.
Non, mais je pose la question.
Une autre question. Je
pense que c'est des négociations qui étaient avancées avant.
Bien sûr.
Qu'il y a été parce qu'il a pensé le truc de cette manière et qu'il était dans un moment, Luis Campos était dans un moment où en fait c'était le patron du club.
Absolument.
Il n'y a pas d'entraîneur. Donc c'est le patron du club. Il agit comme un patron du club, c'est-à-dire qu'il fait le recrutement. Sauf que la réalité, c'est que dans sa capacité à se retourner, à jouer, à faire progresser le ballon par la passe. Ugarte, c'est pas ce que Luis Enrique attend en fait.
Ah bah non.
Donc Colomoni, c'est pas ce que Luis Enrique attend non plus.
Ouais. Et Ramos,
Ramos aussi.
Ramos, il a une qualité qui fait que qui montre.
Ah oui, carrément. Ah. Oui.
Ramos, il va s'en sortir, je pense, avec Luis Enrique parce que il a le cœur.
Je suis pas sûr.
Mais pas
je suis
que,
pas sûr. Je suis pas sûr que ça, ça, ça suffise.
Non, mais il a le cœur, il a le.
Il y a un moment donné, il y a la qualité technique du joueur. Il y a ce que l'entraîneur il ressent par rapport au joueur en termes de technique et de. Est-ce que la pièce du puzzle, elle rentre dans mon puzzle? Voilà.
Si bah, visiblement, c'est pas lui qui a été à l'origine la constitution de ce puzzle. Et peut-être que le Paris Saint-Germain, c'est une hypothèse, avait envisagé un autre entraîneur avant Luis Enrique, à savoir Nagelsmann. J'en sais rien du tout. C'est une un pavé que.
Mais tu l'as balancé.
Je l'ai balancé.
Juste rappeler que mon Gonçalo Ramos, il a déjà marqué 11 buts quand même cette saison, ce qui est déjà pas si mal que cela. Les amis, on se fait une pause et on se retrouve pour la suite. On a parlé de Luis Enrique. Il va être temps de parler d'un homme qui a évité pour l'instant les balles et les gouttes, c'est Kylian Mbappé avec cette question. Le PSG peut-il se qualifier sans un bon Kylian Mbappé? Oui, parce qu'on va avoir besoin de lui et pas de son cousin qui a joué hier soir face au FC Barcelone et qui a eu 3 dans le journal Le Parisien et qui a touché à peine 55 ballons dans la rencontre. A tout de suite.
Le 6-9 France Bleu Paris, le réveil dans la bonne humeur. Service compris.
Allez, du piano ce vendredi.
Robin Bernot.
Aurélien Froissart est parisien et surtout, c'est le pianiste le plus suivi sur Instagram. Il joue régulièrement Gare de Lyon et partage tout ça sur ses réseaux. Écoutez comme c'est beau. Sa vidéo la plus vue cumule 300 millions de vues. Rencontre avec Aurélien Froissart ce vendredi à 7h45.
Le 6-9 France Bleu Paris. Tous les matins, dès 6h.
100% PSG. La tribune.
De retour dans 100% PSG, la tribune. Les Barcelonais commencent déjà à nous chauffer un petit peu. Je viens de recevoir un message de la service presse qui veut nos passeports. Non mais franchement, c'est bien la première fois qu'on me demande ça. Merci. Je viens de prendre le message pendant la pause. Ça m'énerve. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune. Pour la deuxième partie, bien évidemment, Romain Bédouc, Abdelaboulma et Marc Méchenois sont avec nous. Gaspard à la Réal. Et on va se faire la suite de ce podcast et de cette émission. Avec cette question, le PSG peut-il se qualifier sans un bon Kylian Mbappé? Hier soir, Kylian Mbappé est passé complètement à côté. Je vous ai annoncé 55 ballons joués. Je me suis trompé. 44 ballons joués, très exactement. 3 tirs, 0 cadré pour Kylian Mbappé. Et bon, il a perdu 13 ballons sur les 44 joués. Juste une petite stat assez... Juste pour faire sourire peut-être ou pleurer, Bradley Barcola a joué 34 ballons sur sa deuxième mi-temps après avoir remplacé Marco Asensio hier soir. On a vu...
En avoir 35 si Mbappé avait voulu le décaler à la 92e.
C'est vrai, il aurait pu effectivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, on a un Kylian Mbappé qui a traversé ce match, qui a été fantomatique. D'ailleurs, à la fin, il aurait voulu partir directement au vestiaire. On lui a demandé de rester, d'aller saluer quand même le public, les amis autour de la table. Est-ce que ce Paris Saint-Germain peut se qualifier sans un bon Kylian Mbappé ou est-ce qu'il faut même peut-être finir de s'asseoir sur le banc et d'attendre du côté de Luis Enrique? Je vais provoquer un peu, mais voilà, le problème c'est que hier soir on n'a pas joué forcément à 11 mais plutôt à 10 dans l'attitude en tout cas du meilleur joueur. Marc?
Non.
Et pourquoi?
Je sais pas, c'est avoir la mémoire courte en fait, de ce qu'est Kylian Mbappé. Je pense qu'il faut décorer les deux choses avec Kylian Mbappé. C'est d'un côté le peu d'attachement que le public parisien a par rapport à lui, parce qu'il y a un échange qui n'a jamais été fluide et qui ne s'est jamais vraiment créé de manière spontanée. Et de l'autre côté, le joueur qu'il est. Oui, ça lui arrive de passer à côté d'un match. Et ça lui est arrivé de passer à côté de plusieurs matchs cette saison. Mais je crois que globalement, ça lui est arrivé de répondre plus souvent présent dans des matchs que de passer au travers.
Oui, mais là, en ce moment, il est dans une période...
Quel type de match? Dans des grands matchs?
Non, mais t'as oublié Barça. Vous avez oublié Barça il y a 2 ans.
C'était il y a 3 ans.
Ouais, mais vous avez oublié finale de la Coupe du Monde?
Non, mais là, c'est pas le Paris Saint-Germain.
Non, mais bon.
On s'écoute, les gars.
Alors, oui, ça y est, t'attends, moi, il a pas ta chaude, Bruno. Je vais demander la pression. Mais là, tu le sais très bien, Bruno. Donc, on est obligé de répondre à ces...
On laisse terminer Marc et on... Pour l'argument, j'entends...
Je pense qu'il faut accorder un crédit sportif à ce garçon.
Non mais je l'accorde, mais la problématique c'est que dimanche, moi j'ai regardé TF1 Téléfoot, il a annoncé qu'il allait, qu'il serait au rendez-vous.
Non, il a dit les grands joueurs sont là dans les grands matchs, comme d'habitude je ne me cacherai pas.
Voilà.
Les mots, les mots ils ont un sens.
Attends,
comme d'habitude je ne me cacherai pas.
Marc, termine.
Il s'est passé, on a joué c'est la première mi-temps de la double confrontation, on verra après. Moi ce qui me dérange dans ça c'est, moi j'aime beaucoup le joueur en fait, et j'aimerais qu'il soit tout le temps au top et... J'aimerais juste qu'il rate pas sa sortie. Voilà. J'espère que la semaine prochaine.
Voilà. Donc, ne pas rater sa sortie, c'était potentiellement vouloir rentrer au vestiaire comme ça, après cette défaite-là et cette prestation-là, pour ce qui aurait été son dernier match au Parc des Princes avec le PSG en Ligue des Champions. Il y a un moment, je veux bien qu'il rate pas sa sortie, mais il faut que lui, veuille ne pas la rater en fait.
Non, mais après.
On veut trop enjoliver toute l'histoire.
Ça t'arrive que des fois, tu sois dans une conversation avec quelqu'un. Et que le ton monte, et que tu sois pas d'accord avec lui, tu claques la porte et tu t'en vas. Et puis le lendemain, tu le rappelles et tu lui dis, écoute, je suis désolé. Bah, les footballeurs, c'est pareil. En fait, là, ils ont fait un mauvais match. Le mec, il a juste envie de claquer la porte et de s'en aller. Et puis peut-être le lendemain, il se dit, putain, j'aurais dû y aller les voir les supporters et passer outre ma frustration. Bah, en fait, on agit tous comme ça dans ce genre de moment. Donc, il faut quand même lui accorder un crédit. Oui, il agace par son attitude.
Mais est-ce qu'avec un niveau comme il a là...
Accordons-lui quand même le crédit de ce qu'il a fait dans un passé qui est récent. Pas lointain.
Je te rejoins, Marc, mais est-ce que maintenant, moi je te parle de qualification, est-ce que, je vais m'en tourner vers toi Abdelin, est-ce que, en termes de qualification, est-ce que le PSG peut se présenter avec un Mbappé pas très bon quand même sur le terrain, et est-ce qu'on peut imaginer une qualification?
Oui. Pas très bon, c'est déjà meilleur qu'hier.
Mais oui.
Il me semble que la question a été posée à Abdelaboudba. Si je peux.
Non, mais je
vous taquine.
Je des petits trucs, moi.
Je vous taquine.
Non, mais.
Oh, je vous taquine un petit peu. Non, Abdelha. Plus sérieusement, j'ai comptabilisé un petit peu les bons matchs d'Mbappé en Ligue des Champions. Je reste concentré sur oublions la Ligue 1. Il marche sur la Ligue 1. Oublions la Coupe du Monde. Effectivement, c'est ce qu'il a fait est phénoménal. En Ligue des Champions, depuis son arrivée en 2017, il a dû louper, 50, pas louper. Il est passé au travers des matchs pour environ 5, une fois sur deux. T'as une fois sur deux où il est passé en travers des matchs. Je me souviens, il a réalisé de grandes prestations face au Real 2022. Retour face à la face
retour,
à la
retour
si ouais, si quand même il est là
il Atlético
si 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 quand
retour
même. La plus récente c'est Real Sociedad, c'est quand même lui qui score effectivement. Après pour Kylian, on sait que la relation est hyper toxique entre lui et le club, enfin on n'a rien inventé, l'histoire se termine mal, c'est pas bien, ça se passe mal effectivement. Il veut sortir par la grande porte, lui d'un point de vue personnel il veut remporter la Ligue des Champions, et au regard de ce qu'on voilà de sa prestation d'hier, effectivement on peut se poser des questions, mais je pense que on va quand même lui trouver quelques petites circonstances atténuantes au regard de tout ce qui se passe autour de lui. Il va signer à Madrid. Il va partir à Madrid. Ça y est, c'est avec Enrique. C'est hyper complexe depuis quelques semaines maintenant. Et ça se voit sur le terrain. Mais le joueur n'est absolument pas au niveau. Hier, il n'était absolument pas au niveau. Ta question, la question que tu poses, c'est de savoir si il faudrait éventuellement le mettre sur le banc au prochain. On ne met pas Kylian Mbappé sur le banc. Il est capable de dégoupiller. Il est capable de te mettre un ou deux pions. Face à Barcelone, dans une semaine. Il est tout à fait capable de le faire.
Avec, en quoi? Mais, en réaction?
En tout ce que tu veux, en réaction. C'est quelqu'un de bougon. C'est un gamin. C'est un gamin très particulier, Mbappé. C'est quelqu'un qui boude beaucoup. C'est encore un grand enfant d'une certaine manière, qui est très, faut l'entourer, faut le cajoler, faut qu'il soit accompagné. C'est Deschamps aussi qui le racontait un petit peu. Moi, je suis persuadé qu'en le mettant dans les meilleures dispositions, il est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu face à Barcelone.
Romain, vous l'entendez tout à l'heure. Ouais. Peste.
Non, mais ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que je vais reprendre une phrase que tu as dit là. Tu dis, contre la Real Sociedad, il nous a montré qu'il savait le faire. Non, contre la Real Sociedad, il est à la finition d'un très bon collectif.
Oui.
Il appartient au collectif. Mmh. Donc le fantasme, Kylian Mbappé peut tout seul faire gagner un match, ça n'existe pas. Ça n'existe plus.
Mais non, mais
ça a peut-être existé un moment.
Sur un match.
Mais non, mais il y a des trucs.
Tu dis à la Real Sociedad, il était à la finition d'un bon collectif, donc bah non, il y a d'autres matchs avant.
Mais quel autre match? Il est dans la poche.
Il fait le taf tout seul.
À chaque fois qu'il est tombé contre, qu'il était bien pris et bien défendu, ce qui arrive quand tu es dans les meilleures échéances européennes, à chaque fois, il ne trouve pas la solution tout seul. Mais c'est normal. C'est normal, personne. Le foot, c'est un sport collectif. C'est logique.
Ça a été pareil pour Messi, ça a été pareil pour Neymar, en fait.
Mais donc, ces joueurs-là ont su appartenir à un collectif.
Mais c'est juste que Mbappé ne veut pas appartenir au collectif. C'est un lieu commun, en fait, de dire c'est un joueur qui peut débloquer la situation. C'est une phrase toute faite, en fait.
Non, mais ça rejoint.
Ça n'existe pas. Un joueur qui peut débloquer la situation à lui tout seul, ça n'existe pas.
On est d'accord. Mais le problème, c'est que il a des choix, et hier, notamment sur les 20 dernières minutes. C'est la mentalité d'un joueur qui pense qu'il peut être le héros non, et qui veut
c'est
être
pas ça. Romain, Abdella, c'est juste que lui, il crée plus de choses. C'est pas une question de joueur qui est capable de débloquer, c'est une question mathématique de probabilité. Lui, il fait plus de choses que les autres, donc probablement, il a plus de chances de te débloquer la situation qu'un autre. Il dribble mieux qu'un autre, il accélère plus qu'un autre, il fait plus de différence qu'un autre.
Ça dépend. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il ne le fait pas. Il coupe
mieux au premier poteau qu'un autre parce qu'il a cette vitesse. Il fait des choses que d'autres ne font pas.
C'est juste une question de probabilité.
Marc, merci beaucoup. Abdella, je vais venir te voir et on va revenir vers toi, Romain. Parce que de toute façon, la famille Paris Saint-Germain se déchire sur Kylian Mbappé depuis des semaines et des mois. Juste une chose, moi ce que je vois cette saison, alors peut-être que vous allez me dire t'es violent, cette saison, je parle de cette saison Marc, hein, en Ligue des Champions, à Milan, un naufrage, à Newcastle, un naufrage, il n'est pas là, on ne peut pas s'appuyer sur lui, à Dortmund, il est assez étrange, il est moyen.
Même s'il fait la passe D pour Warren.
C'est vrai. Et sur ces matchs de Ligue des Champions.
Hein, c'est Barcola qui l'a fait.
Ah oui, mais t'as raison, mais c'est un décalage de Mbappé à la base.
Mais en tout cas, voilà, on le sent pas dans cette Ligue des Champions complètement. Je me retourne vers Abdella qui voulait prendre la parole, mais il est pas tranchant, il est pas percutant. Face à la Real Sociedad.
Je rajoute le face à face contre Newcastle à domicile au début du match qui te change la physionomie.
Il faut préciser que c'est lui qui débloque la situation contre le Milan.
Elle est dure cette émission.
De quoi au parc, je rappelle qu'on se fait trimballer pendant une demi-heure et il prend la.
Je suis d'accord, mais
il dit je prends le ballon et il fait la diff en fait.
Sauf que là, sur la totalité des matchs, je me fais peut-être l'avocat du diable et c'est aussi pour voir pour le débat. Mais quand même, cette saison, sur cette Ligue des Champions, on attend peut-être plus de notre meilleur joueur.
On attend plus de ce joueur-là. Pourquoi ? Parce que depuis quand Mbappé est moins bien, en fait, son jeu est totalement stéréotypé. Il dribble, il essaye de passer en un contre un, en un contre deux, en un contre trois, alors qu'il y a des solutions sur sa gauche, sur sa droite, il ne lève pas la tête, il veut faire la décision tout seul. Et on le voit, il n'est même plus dans le rythme du match. C'est-à-dire qu'à maintes reprises, quand vous regardez les matchs de Kylian Mbappé, il y a une attaque placée du Paris Saint-Germain, je dis n'importe quoi, lui récupère le ballon et soudain, il ralentit systématiquement tout le bloc, tout le jeu. Ça arrive systématiquement et ça arrivait à maintes reprises hier soir. Je pense que ça fait aussi à écho à sa situation personnelle, j'en suis persuadé. Situation personnelle et autre chose.
Tu vois,
je termine juste là-dessus. Observez l'attitude en fait de ses partenaires. Hier, le jeu passait pratiquement à droite. Il était à droite, le jeu, globalement à droite.
Depuis le début de la saison.
Ça fait écho à autre chose. C'est l'attitude de ses partenaires qui étaient totalement, ce que je disais tout à l'heure, Bruno, totalement vampirisés à l'idée de systématiquement lui faire la passe, à savoir Vitinha qui était totalement frustré, qui ne faisait pas l'image que Vitinha fait aujourd'hui. Il le cherchait systématiquement parce que Mbappé baissait les bras, il n'était pas content parce qu'on ne lui faisait pas la passe. Et aujourd'hui, tu as quelques joueurs qui ne le cherche même presque plus sur le terrain. Alors, tu parlais de collectif. Oui, effectivement, il a besoin d'un collectif pour pouvoir scorer. Là, tu as l'impression qu'on ne joue plus, enfin, on ne sait pas qu'on ne joue plus trop avec lui, mais on ne le cherche plus autant qu'avant. C'est l'impression que ça me donne.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé n'est pas sur cette rencontre au mieux. On l'attend, bien évidemment, sur Barcelone. Est-ce que le champion peut réagir et interagir et changer? C'est lui qui peut faire basculer.
S'il a envie. Il a envie ou pas?
Je sais pas.
Parce que à chaque fois, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une mauvaise prestation, il a pas envie. Donc, avec l'équipe de France, l'Allemagne, le Chili, Amico, il a pas envie.
Mais est-ce qu'il est pas rôti physiquement?
Classico, je pose la question, Ligue 1.
Non, je pense pas. Non, je pense qu'il est. Je pense qu'il est bien. C'est une question d'envie.
Mais Kylian Mbappé, c'est beaucoup d'envie. D'envie quart de finale de Ligue des Champions, FC Barcelone, ça va être ton
rôle. Deschamps l'avait fait jouer à droite. Pas content. Enrique,
il va être content quand, en fait?
Pas content.
Il va être content,
etc. Et quand il est pas content, en fait, ça se voit. Ça se voit sur le
terrain. Il faut quoi pour qu'il soit content?
On déporte le débat, en fait. C'est pas une question d'envie. Hier soir, déjà, il y a un moment donné dans le football, faut aussi, l'année dernière, Stanisic à Munich, il fait un énorme match sur
ils font tous des énormes matchs que quand c'est
Koundé, il fait un énorme match hier sur Koundé.
Donc tu veux déporter le débat sur quoi?
C'est pas une question d'envie. Et quart de finale, on sait qu'Ilan il vit que pour ça, en fait.
Bah franchement,
juste hier il passe, mais il y a plein de trucs qui peuvent entrer en ligne de compte. Peut-être qu'on peut aussi s'imaginer que hier ils avaient un plan de jeu, que bah en fait Barça ils avaient complètement anticipé le plan de jeu, puis que bah les mecs ils étaient perdus sur le terrain, tu vois.
Donc c'est pour ça qu'ils marchent qu'il y a des récupérations hautes, tu peux pas jouer en transition parce que le mec il est en jeu 3 mètres.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi je l'ai vu déjà, j'ai pas vu que on a joué la transition hier.
Bah si, à chaque fois. Alors tu regardes la fin de la première période.
J'ai pas vu qu'on
la
a
fin
joué
de la première période. Dès que tu récupères des ballons, t'es bloqué parce qu'il est 3 mètres
hors jeu. Après,
et qu'il revient pas.
Ah mais c'est.
Ce qui pénalise l'équipe.
Si c'est ça, mais dis-le pour Ousmane aussi.
Oui. Mais Dembélé, à part son but, il fait pas un grand match. Hein.
Ce qui me dérange, c'est qu'on fait vraiment un cas particulier et qu'on traite Kylian Mbappé différemment. Mais souvent, on oublie, en fait. On oublie ce qu'il peut être.
Tu le traites différemment quand il fait des choses.
On oublie ce qu'il peut être. C'est juste qu'on oublie ce qu'il peut être. Oui, hier, il fait pas un bon match. Je pense que s'il était autour de cette table, il dirait ouais. Et je l'ai déjà vu dire en zone mix, ce soir, c'était moyen, quoi. Et je pense qu'il le dirait, en fait. Il fait pas un bon match. Il est bien pris par l'adversaire. Et. En effet, je pense qu'il perd de la lucidité pour vouloir faire la décision, parce que lui, il se considère comme un game changer. Mais il le dit en anglais, game changer.
Tu le dis vachement bien.
Ouais, bien sûr.
Ça va bien avec ta
Je le travaille devant ma play.
Wall Street.
Non, Wall Street j'ai pas la play.
Bien sûr.
En tout cas, le game changer, on l'attend bien évidemment sur le match.
Moi, je pense que ce qui s'est passé hier, ça peut pas le laisser indifférent.
Parce qu'il prend la foudre. Et il sent que les gens sont énervés. Il n'y a pas que Romain Bédou, il n'y a pas même d'autres personnes. Que les supporters aussi sont énervés. Lui-même ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé.
Et Marc, c'est normal qu'il prenne la foudre. On considère ce joueur-là comme l'un des meilleurs au monde. Si ce n'est le meilleur au monde pour certains. Tous les meilleurs joueurs du monde de toute époque.
Ça marche que quand il est bon.
Ont pris la foudre à n'importe quel moment de leur carrière. Bon, forcément, on attend beaucoup. Le niveau, le curseur, il l'a mis ici. Forcément, on attend beaucoup de lui. Forcément, s'il passe à côté, s'il marque deux buts et qu'il qualifie le Paris Saint-Germain face à Barcelone, on dira quoi le lendemain dans les médias et les supporters et les observateurs?
C'est un génie.
Mais cette analyse-là, on peut l'avoir que quand il est bon.
Non, tu
peux l'avoir. Bon. Quand il est pas bon, il faut qu'on aille voir les.
Non, mais surtout, Romain, tu peux l'avoir à l'issue de la deuxième rencontre, en fait.
D'accord.
Okay. Voilà.
C'est toujours après. Et puis après, quand ça sera après, c'est non, mais non. Vous savez, en fait,
Romain, on n'a pas dit qu'il était.
Moi, sur le match retour, en fait, il n'a pas été. Mais
Romain, il n'a pas été bon.
C'est le casino.
Romain,
c'est le casino.
Passe
la
totalement.
Banque gagne toujours.
Non, mais non.
C'est facile. Hein.
Il passe totalement à côté de son match. C'est une certitude. Il le sait. Lui-même le sait, effectivement.
Oui, mais est-ce que.
Il est excusé. Il est excusé.
Non, moi, je l'excuse.
Il y a des circonstances. Il y a des circonstances.
Les circonstances.
Là, les circonstances qu'on dit, c'est. Ça y est, dans la tête, il pense peut-être, il y a l'extra-sportif. Et puis quand même, il n'est pas bien entouré. Hein. Et puis un coup, il ne joue pas à son poste. Et puis un coup, il n'est pas en forme physique parce qu'il le fait sortir à la 60e. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui va excuser la mauvaise performance. Par contre, dans la bonne performance, non, c'est lui. C'est uniquement lui. Donc il y a un moment, il faut que la grille de lecture elle soit similaire des deux côtés.
Tout à l'heure, tu disais que sans collectif, il ne pouvait pas y arriver. Seul. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'hier, il y avait un collectif suffisamment huilé pour qu'il puisse y aller tout seul?
Moi, je pense qu'hier, il n'a absolument fait aucun effort pour intégrer ce collectif.
Voilà. Oui, mais le collectif n'était pas présent, c'est ce qu'ils sont en train de
dire. Le collectif, il a été défaillant sur certains trucs. La très bonne période du PSG, les 20 premières minutes de la seconde période, là, il n'est pas dedans.
Non.
Il n'est pas dedans. Et pourtant, il y a un collectif. Donc, bien sûr qu'on a parlé pendant toute l'émission et on a dit qu'il y avait eu plusieurs erreurs. Et là encore, L'idée n'est pas de dire que Kylian Mbappé est le seul responsable de la défaite hier. C'est pas le cas. C'est pas le seul responsable. On a parlé de Lucien Riquet, on a parlé de Beraldo, de Donnarumma, de Lucas Hernandez. On peut parler du match de Dembélé. Il y a plein de mecs.
Ouais.
Mais on peut pas attendre la même chose de Kylian Mbappé que de tous les autres. Sinon, on le met sur un piédestal constamment, on lui donne un salaire, on parle pas d'argent, mais il y a un salaire qui est conséquent, on lui donne des responsabilités et un pouvoir dans le club qui est conséquent. Il y a un moment, il faut que ça se rende sur le terrain, quoi. Non, ça se rend pas. Et quand ça se rend pas, on dit non, mais regardez, il n'y a pas que lui.
Bon, en tout cas, vous l'avez senti, Romain est chafouin. Et franchement, Kylian, mardi, il faut régler la mire comme ça, on l'aura.
Parce que je serai le plus heureux du monde.
Voilà, parce que je vous l'annonce, c'est Romain qui présente le débrief de la semaine prochaine.
Je serai le plus heureux du monde.
Parce que moi, je serai du côté de Barcelone. Tu y vas aussi, mon petit Marc?
Non,
pas d'avion. Les amis, justement, puisqu'on parle de Barcelone, c'est le match suivant. Peut-on croire encore à la qualification? Tour de table, les amis. Abdella, est-ce que... Alors, on le rappelle, parce que ce matin, j'ai un collègue qui me fait « Oh, ils ont trois buts !» Je lui fais « Mais tu te rappelles que les trois buts, il n'y a plus de buts à l'extérieur, tout ça. » Donc là, c'est juste plus un.
Faut gagner un match.
Voilà, faut gagner le match.
Un plus deux.
Voilà. Mais au moins pour les emmener en prolongation du côté de Barcelone. Est-ce qu'on peut le faire, Abdella? Est-ce que le Paris Saint-Germain a les cartes pour finalement basculer cette équipe de Barcelone mardi?
Pour faire écho à l'ambiance magnifique du Paris, enfin dans les tribunes hier soir, je pense à l'espoir, le retour du Jedi. Je pense que Kylian peut le faire. Je pense que le Paris Saint-Germain peut le faire. Et plus sérieusement, j'ai un peu checké les stats de Barcelone et je parle sous le contrôle de Romain qui regarde souvent le Barça. Ils ont perdu trois fois à domicile cette année. Gironne, ton club préféré, Villarreal et le Real Madrid. Il me semble que c'est trois fois. Je parle de ces trois défaites à domicile. Donc, je pense que au regard des forces en présence, c'est moi à la lecture du match d'hier de Barcelone. Je pense qu'ils sont totalement à notre portée, globalement à notre portée. Je pense que le Paris Saint-Germain peut le faire au retour.
Quelles sont les clés, Marc, sur cette rencontre pour que ça sourie et que le Paris Saint-Germain passe l'obstacle? On s'est mis un handicap, on a compris, mais comment on passe l'obstacle?
Alors moi, je suis pas entraîneur,
Mais on a le droit d'en discuter.
Je suis pas entraîneur, donc sur l'aspect tactique, j'ai rien à dire. Mais il y a juste un truc, c'est que voilà, t'as des joueurs. Moi, ce qui m'a interpellé hier, beaucoup d'erreurs techniques. Si tu règles ça, déjà, je pense que t'as fait 50% du chemin. Voilà. Et c'est parce que déjà, en fait, si tu règles ça avant le match hier, tu t'en prends pas trois.
Effectivement, c'est ce qui a coûté au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ça la clé du match en main?
Pour moi, la clé du match, déjà, il y a les retours. Hakimi qui est là, ça va t'amener une défense à 4 avec Hakimi, Marquinhos, Lucas et Nuno Mendes, sachant que, je sais pas si vous vous rappelez de la deuxième période à Montpellier où en gros c'était Hakimi qui jouait le troisième central à ce moment-là et Nuno qui prenait le poste offensif. Donc je pense que ça peut aller, on peut garder cette animation offensive avec Nuno
qui à la course sera pas inintéressant.
Voilà, et donc avec Hakimi qui est là, et donc ça va faire souffler Beraldo qui n'est pas encore prêt pour ces échéances-là et encore moins peut-être pour un match à l'extérieur. Donc il y a ça, il y a Warren qui va pouvoir repostuler parce que aussi physiquement on savait pas s'il pouvait tenir 90 minutes hier, donc ça peut être un truc. Maintenant c'est, je vais dire la même chose et Marc l'a dit aussi, je vais dire la même chose que j'aurais dit si on avait gagné le match aller, c'est la mi-temps. Donc on a déjà eu des retards qui ont été plus grands que ça à combler. Tu dois gagner un match à Barcelone qui n'est pas une équipe imbattable, dans un stade qui n'est pas une fournaise incroyable.
Une forteresse.
Et donc oui, bien sûr que c'est possible. Et en plus, t'es face à une équipe qui, je sais pas si vous regardez un peu tout ce qui se passe du côté de Barcelone depuis hier, mais qui est en train vachement d'accentuer sur le fait que c'est une, il y a enfin un changement en Champions League. Regardez, c'est une performance fondatrice pour ce nouveau FC Barcelone là, parce que c'est un club et une équipe qui est traumatisée. Il y a eu un traumatisme en 2018, il y a eu un traumatisme en 2019, il y a eu le 8-2 contre le Bayern en 2020, il y a eu le PSG en 2021 avec 4-1 à domicile, et après ça passe pas les poules.
Avec 3 buts d'Mbappé.
Donc c'est un club qui a besoin de se rassurer, et hier, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, tu vois que c'est un club qui peut en prendre plusieurs rapidement.
Sachant qu'ils jouent pas avec le même milieu. Enfin, ils joueront pas avec le même milieu.
T'as Sergio Roberto qui va être suspendu. Alors il y a Pedri et Frenkie de Jong qui vont retrouver un peu des minutes. Mais ouais, t'as la place. Bien sûr qu'il y a la place. Je vais pas changer mon analyse. Je vois le Barça quasiment toutes les semaines. Donc je les vois jouer. Je sais ce qu'ils sont capables de faire et ne pas capables de faire. Et je vois aussi le PSG ce qu'ils peuvent faire. Donc,
Marc. Voulait réagir.
Moi, j'ai parlé de crédit en parlant de Kylian, je parlais de crédit qu'on devait accorder aux gens. Et on a. Luis Enrique a parlé de sa responsabilité. Je pense que le crédit qu'il faut accorder à Luis Enrique, c'est qu'il a déjà vécu ce genre de situation où, où son équipe est passée complètement au travers, plus encore qu'hier soir, est passée plus encore au travers de son match aller en 2017 au Parc des Princes, 4-0. Et il était l'entraîneur du Barça qui a gagné 6-1. Donc, je pense qu'il est tout à fait capable de peut-être de bien gérer aussi ce retour. Et c'est là-dessus. Moi, je crois que c'est plus lui que Kylian Mbappé que j'attends en fait, sur ce retour.
Parce que là, les 5 jours qui viennent vont être importants aussi dans cette vie de groupe et de se remettre un peu la tête à l'endroit.
Bah oui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont prévu de faire. Après, il y a une journée de repos vendredi. Tu as 2 séances pour le préparer parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de. C'est une journée de récup, notamment axée sur la récup. Il y en a beaucoup qui vont rester en salle. Demain, il y a le repos et ils préparent jeudi. Préparer samedi, dimanche. L'entraînement de lundi, c'est jamais un vrai entraînement de répétition.
Ils arrivent à Barcelone.
Parce que tu le fais à Barcelone, tu le fais dans un stade où potentiellement il y a des gens qui peuvent te voir. Donc, ouais, tu fais pas une répète en général. Tu fais une petite mise en jambe.
Tu veux dire que le huis clos va être craqué ?
Non, je parle pas de nous. Par exemple, Mauricio Pochettino faisait jamais de mise en place, alors qu'au camp des loges, il faisait des mises en place. Mais quand il se déplaçait dans le stade adverse, il faisait jamais de mise en place la veille, parce qu'il sait que potentiellement, il y a des membres des clubs dans les bureaux. Parce que, par exemple, certains clubs ont leur bureau dans le stade.
Oui.
Il suffit d'être dans un bureau pour regarder ce qui se passe à l'entraînement. Quoi. L'année dernière, le Paris Saint-Germain faisait ses entraînements de veille de match, même quand c'était à l'extérieur. Au camp des loges pour pouvoir avoir une vraie mise en place, parce que Christophe Galtier faisait une mise en place la veille d'une répétition générale. Donc il faisait l'entraînement au camp des loges et ensuite il voyageait, ce qui les arrivait très tard.
Les amis, on va bien sûr espérer que le Paris Saint-Germain se qualifie. Et juste avant, on va se permettre de faire 5 minutes de rap dans cette émission. On se pose sur la Ligue des Champions. Je vous rappelle juste, soirée spéciale Ligue des Champions le 16 avril prochain, mardi. On sera en direct, bien évidemment, de Montjuïc. On vient de m'envoyer donc, comme quoi j'avais mon accrède, mais qu'il fallait que j'envoie mon passeport. Ça, c'est un truc. Je pars pas en voyage de...
T'as déjà fait le téléphérique là-bas, Montjuïc ?
Non, mais il paraît...
Ouais. Fais-le, c'est super sympa.
Ouais, mais il paraît juste qu'il faut... Il paraît juste qu'il faut pas y aller à pied. Il faut pas tenter la montée à pied parce que sinon
c'est un peu chiant.
Voilà, je vais arriver là-bas complètement cramé. J'aurai plus de jus pour le match
parce que c'est une voie, je crois, pour monter.
C'est ça. C'est un peu le bazar. Allez, on va voir effectivement ce que ça donne, mais en tout cas, je vous rappelle, grande soirée sur l'antenne de France Bleu Paris de 18h à minuit, 2h de 100% PSG le mag avec Pierre Clément et ensuite derrière 20h minuit la grande soirée que vous pourrez retrouver désormais sur YouTube en live. On va juste parler mercato quelques instants avant de se quitter. Voilà, Abdella fait coucou, puisque depuis quelques heures, un journal italien est allé nous dire « Ah, Victor Osimhen va arriver au Paris Saint-Germain, 120 millions d'euros, tout ça, et on s'est dit, bah tiens, tu sais quoi, on va demander aux spécialistes, parce qu'en plus t'en as parlé sur les réseaux sociaux, Abdella, où en est-on ? Est-ce qu'il est vraiment proche, Osimhen, de signer au Paris Saint-Germain ?
Non, pas du tout, enfin il n'est pas proche de signer au Paris Saint-Germain, en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il était dans la shortlist du Paris Saint-Germain l'été dernier, en cas de départ d'Mbappé. Mbappé s'en va. Est-ce qu'il est toujours dans la shortlist ? Ça, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il n'y a eu aucun accord, aucune approche récente. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Oui, il y a un intérêt, mais il n'y a, voilà, comme l'indique, contrairement à ce qu'indique la presse italienne, il n'y a absolument aucun accord avec le joueur aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une clause à 180, me semble-t-il.
Je crois que c'est baissé à 120, je
crois. Ouais, ouais, baissé, qu'on peut négocier, etc.
Je crois,
mais en tout cas,
ça dépendait des étés. L'été dernier, c'était 180.
Voilà, c'est 120. Ça. Oui, elle a diminué. Mais aujourd'hui, en l'état, on n'en est absolument pas là. Il n'y a rien du tout, rien de concret avec Osimhen.
Tour de table, sur le profil du joueur, est-ce que vraiment Paris a besoin de ce genre de profil pour remplacer Kylian Mbappé, Marc Méchénois ?
Non.
Non ?
Bah non, je pense que ce n'est pas le profil Kylian Mbappé.
Et est-ce que c'est parce qu'en fait on sait que le PSG veut dire bah voilà, on va vous prendre des stars, ne vous inquiétez pas, on perd pas le fil de ce qu'on a essayé de construire.
D'abord, c'est un numéro 9. Donc c'est un moi je pense en fait j'essaie de me projeter dans le football de Luis Enrique, dans ce que lui il demande et dans ce que donc ce que lui il souhaite comme joueur. Je suis pas sûr que Victor Osimhen soit un profil pour Luis Enrique en fait. Je pense que dans la finesse technique, dans le jeu sans ballon, c'est un joueur qui correspond pas à Luis Enrique. Je pense que c'est un joueur qui aime beaucoup la profondeur, les espaces, qui est très bon sur le jeu de remise, pas de problème. C'est un excellent finisseur.
Il y a un vrai bourbier pour les défenses aussi.
Ouais, je pense ça. Ouais. Mais moi, je vois plus un Julian Alvarez en fait. Un Gabriel Jesus, c'est profil Luis Enrique.
Lautaro Martinez.
C'est le profil. Mais c'est en fait, voilà, un profil Luis Enrique, c'est un profil Guardiola.
Mais on dit pas qu'Osimhen est un joueur bidon. Il a fait une canne.
C'est pas ce qu'on dit.
Il a fait. Oui. Là, on parle de profil Luis Enrique. Mais là, j'ai regardé la canne. J'ai bien suivi la canne avec le Nigeria. Il a été très très bon. Il a porté son équipe. Il a été très fort, très bon, même dans l'état d'esprit. Et dans l'état d'esprit, voilà, il ne rechigne pas à la tâche. Ouais. Voilà, il va systématiquement. Voilà, il est toujours là à presser systématiquement. Il est et face au but. Il est quand même assez chirurgical, mais je pense pas qu'il corresponde au profil Luis Enrique, comme le dit Marc.
Après, c'est des détails, mais je pense qu'il est aussi capable de, avec du temps, de s'adapter à beaucoup de choses, Victor Osimhen.
Bon, voilà. À voir. Et pourquoi pas de ton côté, Romain.
À ta question, je réponds par plusieurs négatives. La première, c'est que Victor Osimhen ne peut pas remplacer Kylian Mbappé. Aucun joueur ne peut remplacer Kylian Mbappé. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un joueur qui arrive cet été en disant le remplaçant de Mbappé, c'est moi. Okay. Il peut y avoir plusieurs joueurs qui vont venir pour agrémenter un secteur offensif et essayer de compenser la perte de Kylian Mbappé, mais un seul joueur qui le remplace, c'est non. Après, Osimhen, il a énormément de qualité. Quand je dis que c'est un bourbier pour des défenseurs, c'est tes défenseurs, t'as Osimhen à prendre et t'as Osimhen qui vient te harceler, c'est très très emmerdant.
Ah, il est dur, hein, il est dur à jouer.
Il est très très dur à jouer. Ouais. Maintenant, 2-1, effectivement, c'est pas le profil Luis Enrique compatible. Quand on voit que dans les gros matchs, il veut mettre Asensio, avec Osimhen, on est aux antipodes de ce profil-là.
Il faut un Kai Havertz, quoi. Sinon.
Et de 2, le Paris Saint-Germain, c'est absolument pas la priorité. Le numéro 9, c'est pas la prio. Ouais. On a mis 180 millions l'été dernier sur deux numéros 9. Donc, c'est pas pour en reprendre un et en rechercher un. À la limite, si t'en vends un, et si tu vends Colomwani ou Ramos ou les deux, et que tu veux aller chercher un numéro 9, pour moi, j'irai plus chercher Lautaro Martinez à l'Inter, où là, t'as un numéro 9 qui va. Peut-être qu'il va prolonger, mais en tout cas, dans le profil, un 9 qui peut être finisseur et qui peut participer au jeu, je vais plus chercher un 9 de ce style-là, qui a en plus montré et qui a fait une belle carrière à l'Inter.
Il faut que ton 9 sache faire le jeu, en fait.
Voilà, il faut qu'il sache participer.
Les Anglais disent platform. The game.
Décidément, aujourd'hui, une nouvelle coupe, English Institute Wall Street.
C'est ça.
Oh, il est chaud.
J'ai un coiffeur anglais, voilà.
C'est surtout que tu joues à la play.
Il s'appelle Thierry.
Thierry.
Ah, les amis, en tout cas, voilà, j'avais envie de terminer.
Bonjour à Thierry, si nous en.
Voilà, Thierry, salut, bien sûr, et bravo. Vraiment, bravo pour la coupe.
Bravo à Thierry.
C'est vraiment du très, très bon travail. Les amis, il est l'heure de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, le podcast audio et vidéo de France Bleu Paris. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, à nous mettre des pouces, des likes, des petites étoiles et des commentaires pour faire avancer tout cela dans et sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Marc Méchénois, un grand merci à Abdelaboulma, un grand merci à Romain Bédouc et un grand merci à Gaspard pour la réalisation de ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous, pendant que j'en ai deux qui sont en train de prendre des selfies en même temps et nos deux passer chez le coiffeur, ça va les gars, c'est bon pour vous là.
Il y a la vidéo encore.
Ils pensent que c'est terminé, qu'ils sont plus filmés. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous sur l'antenne de France Bleu Paris, c'est avec le MAG 100% PSG dès 18h avec Pierre Clément. Fabrice Pancrate aujourd'hui invité dans le MAG de Pierre Clément à 18h et ensuite derrière bien évidemment le billet de Romain Bédouc à 8h34 et nous on se retrouve avec la team PSG pour le match du Paris Saint-Germain face à Barcelone mardi prochain, la grande soirée 20h minuit avec Rico Rabé Sanatana, avec Miguel Derenne, avec Pierre Clément et avec vous au 01 42 30 10 10. Merci à toutes et à tous, il est temps de débrancher ce podcast.